Le grand témoin. Bonjour et heureux de vous retrouver en ce dimanche 15 juin 2014 pour vous présenter celui, cette fois-ci c'est celle qui sera notre grand témoin du jour. Elle s'appelle Monique Beka Poba, elle est cinéaste et poétesse avec elle. Nous allons parler de son expérience dans le cinéma. Monique Beka, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue au Congo.
Merci beaucoup de me recevoir sur les ondes de Radio Okapi.
Alors avec vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez nous parler de votre expérience dans le cinéma. Ce qui vous a motivé à vous lancer dans le cinéma, est-ce que vous vous retrouvez dans ce que vous faites? C'est tout à l'heure dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes née à Bruxelles.
Oui, tout à fait. Je suis la fille du premier ambassadeur du Congo indépendant qui s'appelait Joseph Mbeka Makoso, et qui a été un des tout premiers universitaires de ce pays sorti de Louvagnon. Il est ambassadeur là-bas et effectivement, il y est resté 4 ans ambassadeur. Donc, moi, je suis née en 1962, mais un ambassadeur, ça bouge beaucoup.
Ça bouge beaucoup.
Donc, ouais. Je ne suis pas restée là. Ensuite, il a
Vous avez visité plusieurs pays comme ça avec
voilà.
Votre papa, jusqu'à en Iran. Hein.
Oui, France, Allemagne, Iran, États-Unis et son dernier poste c'était le Canada dans les années 1990 à l'époque des massacres du Lumumbashi.
Et vous avez passé toute votre enfance en Europe?
Bien écoutez, au départ il a essayé de nous mettre dans des pensionnats en Belgique, puisqu'à l'époque c'était surtout des pensionnats. Et puis il s'est dit que pour les filles c'est mieux qu'ils restent avec les parents. C'est la raison pour laquelle je me suis retrouvée en Iran entre l'âge de 13 ans et de 15 ans.
Ça vous fatiguait pas finalement ces voyages tout le temps entre deux avions?
Bah écoutez, finalement ça devient une sorte d'art de vivre. Hein. Quand les gens sont tout le temps dans des avions, moi c'est quand je ne bouge plus dans un avion que je trouve que la vie est étrange. Alors que les 3/4 des gens ne prennent pas l'avion et au contraire, pour eux c'est un grand événement. Ce n'est plus un événement évidemment pour moi.
Fille de diplomate, on imagine que vous avez grandi dans de très bonnes conditions.
Eh bien, j'ai certainement grandi dans un milieu très privilégié, surtout celui qu'on appelait le milieu des évolués à l'époque. Et quand vous regardez les films que je fais, c'est des films qui traitent de ce milieu, parce que c'est celui que je connais et c'est celui sur lequel, évidemment, je m'interroge.
Et de temps en temps, vous avez eu à venir au Congo pendant les vacances?
Oui, je suis venue régulièrement au Congo. En fait, chaque fois qu'il y avait les vacances, on venait au Congo, c'était pratiquement obligatoire. Et puis, à un moment donné, pendant un court laps de temps, mon père a été ministre. Il a été d'abord vice-ministre de l'économie, puis finalement ministre de l'économie. C'est d'ailleurs sous son mentorat que s'est fait le barrage d'Inga. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que le ministre de l'économie de l'époque qui avait beaucoup à voir avec ce barrage, c'était mon père, Joseph Mbeka Makoso. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu un petit malentendu, si je peux m'exprimer ainsi, avec le président. Au moment où le président Mobutu avait créé le mouvement populaire de la révolution, le seul de tous ces ministres qui a dit qu'il ne trouvait pas qu'un parti unique était une bonne idée, c'était mon père, Joseph Mbeka. Et on aura jamais. Parce que Tshisekedi était là. Lui n'avait rien dit. Il était aussi ministre à ce moment-là. Lui n'avait rien dit.
Monique Mbeka, vous avez une licence en sciences commerciales et internationales de l'Institut d'études supérieures de Saint-Louis en Belgique.
Tout à fait.
J'ai lu quelque part. Vous disiez que vous avez fait ces études beaucoup plus pour vos parents que pour vous-même.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que mon père a énormément, étant donné qu'il a été avec Albert Ndélé, le premier diplômé de ce pays en sciences économiques. Bon, pour lui, c'était une sorte de presque d'héritage à perpétuer par ses enfants, de se mettre à faire des études d'administration publique ou de sciences économiques ou de sciences commerciales. Bon, je dois dire que finalement, je pense que c'est vraiment un choix qui l'a influencé, ces études de sciences économiques, parce que moi, depuis l'enfance, je suis quelqu'un qui est amoureuse de la littérature, qui est amoureuse des histoires, de la narration. Donc, j'ai fait ce diplôme que j'ai parfaitement réussi, puisque j'ai eu des distinctions. Mais finalement, je me suis retrouvée aussi bien à faire des émissions comme journaliste radio que plus tard
à être documentaire. Est-ce que vous avez suivi une formation?
Non, j'ai appris sur le tas. Comme étudiante, nous avions accès à Radio Campus à l'Université Libre de Bruxelles. Il y avait des émissions africaines qui existent jusqu'à maintenant. L'émission s'appelle Sous l'arbre à palabre. Et je suis restée 5 ans à faire des émissions, à interviewer, à me documenter, à lire des livres pour préparer ces émissions. Et finalement, je suis plus journaliste que quelqu'un qui a vraiment travaillé dans le domaine des sciences commerciales. Mais par ailleurs, je dois dire que me retrouvant dans le cinéma, le fait d'avoir touché à ces matières économiques, économique et commerciale, fait qu'il me semble que la longévité que j'ai dans ce métier, c'est-à-dire plus de 20 ans, s'explique aussi par ma maîtrise des questions financières et comptables. D'autres réalisateurs qui ne savent pas se débrouiller dans ce domaine disparaissent du marché. Il est important de savoir que le cinéma, c'est un secteur économique. C'est un secteur économique. Et d'ailleurs, la culture en général est liée à l'économique. Quand vous regardez les États-Unis, tout ce qui est hollywoodien, tout ce qui est séries télévisées, etc., ça fait partie de beaucoup de bénéfices qu'ils tirent au niveau de leur balance de paiement, parce que tout le monde consomme le cinéma américain, tout le monde consomme la série télévisée américaine, et avec ça, il y a des produits annexes qui viennent et qui aussi privilégient l'économie de ce pays. Donc la culture est qu'une économie, ce qui fait qu'un des grand combat que j'ai, c'est d'essayer d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'on n'en tire pas profit, alors que le cinéma au Congo pourrait être ce qu'est le cinéma au Nigeria, alors qu'il y a 15 ans, ce n'était rien. Le cinéma au Nigeria, maintenant, c'est quelque chose d'extrêmement important, aussi bien pour leur économie que leur image de marque extérieure. Ça pourrait être le cas du Congo.
Monique Mbeka, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est le côté mondain.
Ça veut dire quoi, côté mondain?
Le côté mondain, ben, c'est-à-dire dans le cinéma, il faut énormément entretenir de relations, parce que c'est un métier où interviennent énormément de relations humaines, aussi bien avec les techniciens, avec les acteurs, avec les producteurs, avec les financeurs, avec les journalistes. Je suis actuellement dans votre studio, donc vous comprenez que voilà, nous sommes vraiment au cœur d'une multiplicité de contacts humains qui peut parfois se révéler très lourd. Et là, je n'ai même pas encore cité le public, parce qu'un public, dès qu'il s'aperçoit que quelqu'un est cinéaste, il se jette sur vous, et il faut savoir aussi gérer ça.
Donc, mais comment vous vous y prenez?
Ben, je dirais que c'est le côté que j'ai le plus difficile à gérer, parce que moi, quand je fais des films, bon, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est le film, c'est l'histoire du film. Mais à bien remarquer, quand vous regardez le temps que vous consacrez, ce qu'il y a autour du film proprement dit, c'est peut-être 10, 15, 20% de votre temps. Tout le reste du temps, c'est de la gestion financière et la gestion dont je vous parle. Et donc, en final, vous êtes un peu frustré, parce que la partie qui vous plaît vraiment, c'est pas celle qui a occupé votre temps. Et ça, c'est très triste.
Vous êtes mariée, Monique Mbeka?
Oui, je suis mariée. J'ai un enfant.
Et comment vous partagez votre vie familiale et le travail? Vous bougez beaucoup apparemment.
Oui, bon, ça c'est surtout quand un film sort. Quand un film sort, vous avez certainement moins de 2 ans à bouger dans les festivals pour le promotionner, pour essayer de le vendre, etc. Là maintenant, le film, sa première vision était à Bruxelles le 3 mai, la deuxième était ici le 10 juin. Et à partir de maintenant, on va dire que tous les mois, il va être quelque part. Par exemple, déjà au mois de septembre, il est au Cameroun, au mois d'octobre...
Et vous êtes obligé d'être là?
Ben, très souvent, il vaut mieux que ce soit le réalisateur ou la réalisatrice qui soit là pour défendre son produit, parce que généralement, c'est l'habitude. Donc, moi, ce que j'ai eu, entre guillemets, comme chance au niveau de mon couple, c'est que c'est quelqu'un qui travaille avec moi, c'est-à-dire qu'il est monteur de films, il a monté tous mes films. Bon, un monteur, c'est pas quelqu'un qui bouge, c'est le réalisateur qui bouge, donc c'est quand le film revient...
Il comprend votre travail.
Oui, il comprend mon travail, il a soutenu, certainement, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas pu continuer.
Mais est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressemblez plus à une ouest africaine qu'à une congolaise?
Ce qu'on dit régulièrement, c'est que je ressemble à une camerounaise. Alors là, c'est quelque chose qui est... c'est au point qu'on me parle en douala, parfois dans des rues à Bruxelles. Non. Mais une fois, je suis même entrée dans un restaurant camerounais, je cherchais un ami, et la patronne de ce restaurant a commencé à dire, mais vous avez même pas l'air de connaître douala, c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai dit, mais je ne suis pas camerounaise. Ils n'en croient pas leurs oreilles ni leurs yeux. Il semble vraiment que j'ai une tête de camerounaise. Maintenant, l'Afrique
de
l'Ouest...
Et moi, le jour où je vous ai vu, sincèrement, j'en ai même parlé à Janou, je lui ai dit que vous ressembliez à une journaliste camerounaise qui passe sur Equinox TV.
Oui, Suzanne Kalalobé.
Voilà.
Ah ben,
on
Suzanne
l'a
Kalalobé.
Déjà dit.
Oui, mille fois. Suzanne Kalalobé, une fois, on s'est retrouvés dans un festival, on a commencé à se regarder parce qu'elle avait entendu mille fois que je lui ressemblais. Moi, j'avais entendu mille fois. Puis on se regarde, on se dit, mais est-ce qu'on se ressemble tant que ça? Pas vraiment. Je crois que c'est seulement peut-être au niveau de certaines impressions physiques ou psychologiques, mais moi, je trouve pas que je lui ressemble.
Mais j'ai lu quelque part que vous avez achevé votre premier recueil de poèmes à 18 ans.
Oui, oui, tout à fait. Mais mon père a publié mes poèmes comme carte de vœux de l'ambassade d'Iran. au moment où nous étions là dans les années 70. Il a publié, non, ou alors c'était plutôt aux États-Unis, je crois que je confonds maintenant. Mais en tout cas, la carte de vœux de cette ambassade du Congo de l'époque, c'était mes poèmes. Ça a circulé partout, tout le monde est venu faire des compliments à notre famille. J'ai fait beaucoup plus de poésie que je n'ai fait de cinéma.
Monique Mbeka, vous êtes beaucoup plus attachée à l'Europe qu'au Congo.
C'est certainement en Belgique que j'ai le plus vécu. Maintenant, en tant que fille d'ambassadeur, on est des gens circulant toujours partout dans des tas d'endroits et si intéressant par la force des choses. Moi, j'ai passé 2 ans en Iran, mais il y a des connaissances que j'ai sur l'Iran que les gens s'étonnent de voir venant de la part d'une Congolaise. Nous avons été au Bénin parce que mon mari, qui est belge, a eu un poste de coopérant. Nous sommes restés 13 ans au Bénin. J'ai fait des films au Bénin. Il y a beaucoup de gens qui croient que je suis béninoise parce que j'ai fait vraiment des films sur l'histoire du Bénin, au même titre que j'en ai fait sur l'histoire du Congo. Donc, ils disent même que je suis bénino-congolaise. Je dois enlever le belgo-congolais. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais ça, c'est un peu logique par rapport à des gens qui sont comme des pigeons voyageurs depuis leur naissance. Mais par contre, je crois que si j'ai fait des films, c'est justement pour ne pas perdre contact avec le Congo. Le fait de revenir, parce qu'il y a des gens qui quittent le Congo, qui reviennent 20 ans après. Et moi, je reviens toujours, ne fût-ce que tous les 3 ans, tous les 4 ans, ou même chaque année ces derniers temps, parce que ce contact, je préfère toujours l'approfondir. Et des fois, je me retrouve à connaître des choses que les Congolais d'aujourd'hui ne connaissent plus, parce que je vais beaucoup, par exemple, le pensionnat de Banzamboma, qui est quand même quelque chose d'important dans l'histoire des femmes au Congo, mais il y a beaucoup de jeunes filles qui ne savent pas ce que ça représente, jeunes filles d'aujourd'hui, du Kinshasa d'aujourd'hui. Donc, je viens leur apprendre des choses sur l'histoire du pays. Donc, en quelque sorte, je réfute que vous me dites que je ne sois pas au courant du Congo. Je le connais d'une certaine façon, d'une autre façon.
Par les ouvrages ?
Pas par les ouvrages, par mes recherches, par le fait que j'aime aller dans les villages, que j'aime me retrouver aux provinces, que j'aime confronter les témoins d'un certain âge qu'on n'écoute plus, disant que bon, ce sont les vieux qui ont foiré l'indépendance, qu'est-ce qu'on a encore à prendre d'eux. Au contraire, c'est le fait que peut-être ils ont raté certaines choses qui peuvent nous permettre de, en connaissant les origines et le contexte de ces ratages, de pouvoir réussir aujourd'hui. Et c'est un gros problème, selon moi, que cette mémoire ne circule pas. Et ça, c'est l'objectif que je me suis fixé en faisant les films que je fais.
Alors, Monique Mbeka Pouba, est-ce que votre nom a une signification particulière? Parce qu'on sait que souvent les noms africains ont une certaine signification. Est-ce que c'est votre cas aussi?
Oui, Mbeka, ça veut dire, on sait bien que Mbeka, il y a la chanson de Rochero, Kafulmaï, où la dame se plaint. Elle dit qu'elle est traitée comme Mbeka et ça veut dire comme un déchet. Que son mari la traite comme un déchet et vraiment elle souffre. Donc c'est comme ça d'ailleurs que j'ai appris que mon nom signifiait ceci, puisque j'essayais de bien connaître le répertoire des chansons de Rochero et c'est une très belle chanson. Donc je crois que c'est un nom. C'est un peu les noms, il y a une signification à certains noms, où plus ils semblent discrets et humbles, plus ils dissimulent la puissance. Nous savons que Mobutu, ça veut dire simple sol. Mm-hmm. Et lui-même a préféré rajouter Kukungwendu, parce que ça l'énervait que ce soit Mobutu. Mais qu'est-ce qu'on retient de lui? C'est Mobutu, c'est rien d'autre. Et Mobutu est quand même un homme de pouvoir. Donc ce nom-là, de première signification, c'est déchet, mais deuxième signification, c'est sacrifice. C'est-à-dire que dans beaucoup de cultures africaines, quand on est dans situation de malheur, on sacrifie le bien le plus important ou la personne la plus importante de la communauté pour attendrir les esprits, avoir leur aide. Et donc, ça veut dire aussi ça. Le deuxième nom de Mbeka, c'est que c'est des personnes à sacrifier tellement leur valeur est grande pour sauver la communauté. Donc, je suis très fière de porter ce nom.
Poba.
Poba, c'est le nom d'un arbre de la forêt du Mayombe, puisque je suis une Mouyombe. L'arbre en question, il paraît qu'il est tellement solide que quand vous essayez de le déraciner, ce sont votre hache qui se casse sur le tronc de l'arbre, parce qu'il a trop de force pour qu'on puisse l'abattre.
Est-ce que c'est ça la personnalité de Monique?
Ah, c'est certainement ma personnalité. Vous savez, 20 ans dans le métier du cinéma, essayez pour voir. Il y a des hommes qui ne peuvent même pas se prévaloir de ça. Et en tout cas, du nombre de films que j'ai fait, j'ai fait 10 films en 20 ans. Ça veut dire tous les 2 ans, il y a un film de Monique Mbeka. Et dans les circonstances que nous vivons dans le cinéma africain, c'est presque incomparable. S'il n'y a pas d'autre exemple.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui Monique Mbeka-Poba. Elle est cinéaste et poétesse. Monique, on va parler de votre début dans le cinéma. D'abord, qu'est-ce que vous a poussé, qu'est-ce que vous a motivé à vous lancer dans le cinéma?
Bon, tout cela vient du hobby que j'avais quand je faisais mes études de sciences économiques, de faire des émissions radio. Donc, faisant des émissions radio, je me suis spécialisée plutôt dans les dossiers, dans le domaine culturel. Et donc, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la communauté africaine de Belgique, j'allais avec mon agra poser mes questions, ceci, cela. Et donc, à un moment donné, il y a eu deux événements importants pour moi qui m'ont lié à mes débuts dans le cinéma. C'était l'existence, ou enfin le lancement de deux festivals de films africains. C'est la première fois de ma vie que je voyais des films africains, les films de Sembène Ousmane, les films Burkinabé, tout ça. Donc, ça a été très, très, très... Et en même temps, les réalisateurs venaient présenter ces films-là. Donc, j'ai pu faire aussi des contacts. Et puis, le deuxième événement, c'est la sortie du film La vie est belle. C'était pratiquement dans les mêmes eaux que l'émergence de ces nouveaux festivals de films africains. Donc, comme je couvrais tout ça en tant que journaliste, vraiment, ça m'a trop passionnée. Et dans le même temps, j'ai pu avoir l'occasion d'être correspondante de ma radio, Radio Campus, au FESPACO. Mm-hmm. C'est-à-dire, je suis allée là-bas faire des interviews à Ouagadougou. En tant qu'envoyée spéciale de la radio, j'étais prise en charge par le festival qui avait un budget pour les journalistes. Donc, vous imaginez bien une fille qui n'a même pas 30 ans, 27 ans, qui se retrouve dans un environnement pareil. Non, je ne faisais que rêver de cinéma, c'est tout à fait évident. Mais bon, tout le monde rêve de cinéma. Maintenant, la question est de passer du rêve au concret. Ouais. Et mon problème était que je ne pouvais pas abandonner mes études, parce que je savais très bien que venir dire aux parents, voilà, je n'ai pas fini mes études de sciences économiques et je me lance dans le cinéma. Tout le monde allait crier. Donc, je me disais, mais comment je peux faire? J'ai envie d'investir ce nouveau secteur. Alors, ce qui s'est passé, c'est toujours par le biais de mes de mes émissions, j'ai eu à couvrir un grand séminaire qui était conduit par Monsieur Claude Ondombo. Monsieur Claude Ondombo, un Camerounais, dirigeait le programme international du développement de la communication de l'UNESCO. Et il est venu nous faire une conférence comme quoi l'UNESCO s'inquiétait de ne pas avoir assez de femmes dans les médias. Et bon, je vous parle de ça, c'est les années 80, fin des années 80. Et que, bon, ils espéraient, encourager par leur programme international de développement de la communication, les femmes à rejoindre ce secteur. Donc moi, je suis allée le voir et je lui ai dit que j'aimerais suivre une initiation au cinéma documentaire qui se passait à Paris pendant 3 mois, qui était très cher, donc je pouvais pas payer ça. Mais il a accepté que son programme prenne le Minerval en charge. Donc j'ai eu cette initiation de 3 mois, ce qui n'est pas beaucoup, ce n'est pas des études de 2 ans, 3 ans. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a lancé à faire mes documentaires. Donc, à l'heure où je vous parle, j'ai fait une dizaine de documentaires et ma première fiction a été présentée mardi 10 juin à l'Institut français à de la Gombe. Donc je suis passée en 20 ans du documentaire pour lequel je n'avais finalement qu'une un petit stage de 3 mois, mais qui quand même m'a fait gagner pas mal de prix, a fait voir mes...
Et dans vos documentaires, vous parlez plus des réalités africaines, des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée.
Oui, mais c'est parce que je peux vous dire une chose, je suis certain que vous en avez vu au moins un. C'est un film qui n'arrête pas d'être piraté ici, dans les télévisions, et c'est l'histoire de mon grand-père qui est assistant médical. Et alors, on essaie de retrouver les personnes qui l'ont côtoyé, parce que la famille voudrait faire une messe de requiem, et puis ma tante va retrouver un peu tous les témoins de sa vie. Alors ce film-là qui parle des assistants médicaux, parce que comme je le dis, je voudrais rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui.
J'ai lu quelque part, vous disiez que les Belges n'ont pas préparé les Congolais à la relève.
Oui, mais ouais. Ça c'est un fait qui n'est pas absolument pas nié, c'est pas à moi de le dire. D'ailleurs, c'est un fait historique, c'est le cas. Si ce n'était pas les jésuites qui ont demandé quand même qu'on crée l'Ovanium en 1954, c'est-à-dire 6 ans avant l'indépendance, ce qui fait que y a des gens qui venaient tout juste d'être diplômés à un moment de cette indépendance. Il y en avait 10 maximum, 9 ou 10, je ne sais plus. Bon, un pays qui est indépendant, qui n'a que 9 ou 10 universitaires, vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler de préparation.
Et en 20 ans, vous venez de dire, vous avez réalisé 10 films, ça veut dire documentaire et fiction?
En soi, je n'ai fait un seul fiction. La seule que j'ai faite, c'est celle que
c'est
j'ai montrée.
C'est celle que vous avez montrée
le 10 juin, mardi le 10 juin au Hall de la Bombe.
Et les neuf, c'est des documentaires.
Documentaire, un sur l'assistant médical, que je pense que vous avez vu, n'est-ce pas?
Oui, je connais.
Oui, bien sûr. Il est piraté partout, sans mon autorisation, je vous assure. Donc, le film sur l'assistant médical qui s'appelle Un rêve d'indépendance. Le premier film que je fais s'appelait Revue en vrac et parlait à la suite du discours du 24 avril 1990 où Mobutu renonçait aux prérogatives de parti unique du MPA, eh ben, il y a eu une série de journaux qui ont commencé à voir le jour, qui n'étaient plus de journaux de parti unique comme Elima et Salongo à l'époque. Et mon premier film Revue en vrac, c'était une visite des conférences de rédaction de tous ces journaux émergents et se frottant à la nouvelle liberté de presse. C'est un film de 26 minutes. J'ai fait ensuite un film, comme je vous ai dit que j'habitais au Bénin pendant un certain temps, j'ai fait des films au Bénin. Un film sur une élection présidentielle se déroulant au Bénin en 1996 qui a vu le retour démocratique au pouvoir de l'ancien dictateur Mathieu Kérékou. C'est devenu un film historique pour l'histoire de ce continent d'ailleurs. Beaucoup de gens me connaissent d'ailleurs pour ça. Ils savent même pas que j'ai fait d'autres choses. C'est rigolo. Et puis j'ai fait aussi par rapport au Bénin un film qui s'appelle Annale Enchantée, qui est le film d'une jeune fille qui vit dans une famille polygamique de 31 garçons et filles. Donc le papa a 5 femmes et les enfants sont au nombre de 16 filles et 15 garçons. Et comment on gère une telle famille, quand même en plein 20e siècle. Donc c'est aussi deux films qui ont eu beaucoup de succès au Bénin. Et puis j'ai continué en faisant un film ici qui s'appelle Sorcière à la vie. Donc chaque fois j'essaie de... Voilà, de faire un film Bénin, un film Congo, un film Bénin, un film Congo. Parce que, bon, vivre au Bénin, ça me facilitait le fait de lancer des projets au Bénin.
Faire un film Congo... Mais il y a aussi un documentaire sur, je crois, la coupe...
Entre la coupe et l'élection. Oui, voilà. Nous allons y venir. Donc, un jour, j'ai été invitée ici par le Centre Wallonie-Bruxelles à montrer l'ensemble des films que j'avais fait à cette époque-là, qui était au nombre de 8. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit aux personnes, mais écoutez, j'aimerais bien rencontrer la jeune génération. Et rencontrant la jeune génération, on m'a amené des jeunes de l'Institut National des Arts qui avaient un petit cours d'initiation au cinéma mais qui n'avaient pas vraiment de formation au cinéma. Et ce sont ces personnes-là que j'ai suivies avec eux, avec qui j'ai fait le film Entre la coupe et l'élection sur l'équipe des Léopards, donc les rescapés de l'équipe des Léopards puisque beaucoup sont décédés, qui sont allés à la Coupe du Monde en 1974. C'est un film, je crois, qui a été très apprécié, sauf que les gens pleuraient dans la salle le jour de la première. En 2008, c'était vraiment mais qu'est-ce qui est arrivé à nos héros? Souvent, ils sont dans des situations terribles. Je suis une fille de l'extérieur, une fille de la diaspora, donc quand je reviens dans le pays, j'aime connaître cette mémoire auquel je n'ai pas pu participer étant à l'extérieur. Et en faisant cette recherche pour retrouver ce morceau de vie que les gens d'ici ont vécu, que moi je n'ai pas vécu, en fait, je leur donne le cadeau qu'eux-mêmes, ils aient aussi une réserve d'images concernant ce passé. Moi, par exemple, les rêves que j'ai, c'est un film sur Taboulé, c'est un film sur Franco, c'est un film sur... vous voyez, ce genre de choses qui appartient vraiment à la mémoire populaire, à la richesse psychologique et mentale et culturelle de notre pays.
Alors, Monique Mbeka, en 20 ans de carrière, quelle est la récompense qui vous a le plus marqué en 20 ans de carrière?
Moi, c'est toujours les récompenses qui viennent de mon pays, parce qu'elles sont rares. Elles sont très rares. Vous pouvez avoir des récompenses ailleurs, mais quand vous en avez chez vous, c'est de beaucoup plus de poids. Moi, je pense qu'un des jours qui a été le plus important dans ma vie, c'est quand on a montré le film Entre la coupe et l'élection, et que tout un pays m'a remercié. Une fois, je traversais la rue au rond-point à Singaba, ou je ne sais où, et le monsieur, le policier qui faisait la circulation, m'a dit, maman, je vous ai vu à la télévision, merci, merci, merci. J'ai dit, mais vous n'avez pas vu le film. Il a dit, vous avez pensé à faire ce film, merci. Ça, c'est peut-être pas une décoration, c'est peut-être pas un prix, mais tu circules dans le pays avec des gens qui te remercient, ça fait beaucoup.
Et en même temps des carrières, il y a des choses, des mauvais souvenirs.
Les mauvais souvenirs, c'est que nous sommes toujours obligés de chercher le financement ailleurs pour des films qui, en fait, n'intéressent. Je ne dis pas que ça n'intéresse pas le reste du monde, mais quand même principalement, ça intéresse les Congolais. Et quand vous cherchez un financement pour ces films-là à l'extérieur, et que les gens trouvent ça normal, moi j'ai mal. Parce que des pays comme le Maroc, les cinéastes marocains ne vont pas chercher ailleurs. Ils font 10 longs-métrages par an et 30 courts-métrages par an. Ici, si on fait 2 courts-métrages ou 3 courts-métrages. Alors, c'est la folie. Ah, mon Dieu, quelle grande année. Un pays comme le Maroc fait 10, 15 courts-métrages par an, plus les films. Parfois, ça ne sort pas du pays. Mais au moins, les gens
ils voient ont les moyens.
Leurs propres images. Un pays comme le Maroc et un pays comme le Congo, comparez un peu qui a le plus de moyens, s'il vous plaît. Non, là, il faut être sérieux. Je ne sais pas pourquoi on joue toujours aux pauvres. C'est faux. C'est complètement faux. C'est question de gestion. Le pays est un des plus riches qui existent. Donc, et pourtant, il y a 10 ans, ils étaient au même point que nous. C'est-à-dire, il fallait seulement courir à la francophonie, à la ministère des Affaires étrangères. Ils faisaient la même chose que nous. Et je me rappelle parce qu'à un moment donné, j'avais un projet de film et il fallait aller au Festival d'Amiens. Et vous, si vous voulez, vous lisez votre projet devant une commission qui vous donne une subvention de 10 000 euros. Donc évidemment, c'est beaucoup, tout le monde était chaud pour aller là-bas. Et alors, nous étions à la fin, il y avait le projet d'un Marocain et mon projet, que tout le monde avait vu comme étant un des meilleurs projets. C'était entre lui et moi. Et puis finalement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour question, on va dire, un peu politique, on a préféré donner un projet à quelqu'un qui venait d'Espagne, mais qui avait un coproducteur du Venezuela. Or, il y avait une partie du prix qui était donnée par le Venezuela de Hugo Chavez. Donc, même si le projet n'était pas très bien écrit, du moment que le producteur était vénézuélien, c'est un peu normal que l'argent du Venezuela aille au Venezuela. Donc, en fait, nous, on est resté un peu bouche ouverte, mince, parce que c'était entre nous deux. C'était vraiment un peu comme une compétition, mais en bonne fraternité. Et le Marocain m'a dit, bon, de toute façon, chez moi, je peux m'en sortir. Et moi, qu'est-ce que je devais dire? J'étais très blessée. C'est une des anecdotes où vraiment je me suis dit, mais voilà.
Ben, il fallait lui dire aussi chez moi si je peux m'en sortir.
Ah non, j'allais mentir, puisque ce que j'ai fait avec Sœur Oyo dernièrement, Sœur Oyo, je n'ai pas obtenu un franc, alors un euro, un dollar, rien. Alors que c'est un film qui parle de l'histoire des femmes, vraiment les grandes femmes, les premières femmes qui ont été ministres, les premières femmes qui ont été députées, toute femme qui a été quelque chose dans ce pays venait de cette école parce que c'était l'unique école pour un grand pays comme le nôtre. Et même le Rwanda ou Burundi envoyaient ces enfants-là. Donc, moi, vous savez, il y a des grands-mères qui voient ce film, qui pleurent. Elles n'arrêtent plus de pleurer. Elles disent, mais vraiment, c'est notre jeunesse, c'est notre enfant. Je l'ai montré à l'association... J'ai montré ce film à l'association des anciennes du Sacré-Cœur, mais qui vivent en Belgique. Mais les femmes ont même commencé à danser dans la salle pour témoigner leur joie et leur reconnaissance. Mmh. C'est-à-dire que même les Belges regardaient ça en se disant, pourtant c'est eux qui ont créé le pensionnat, mais on ne savait pas que c'était si important pour vous. C'est difficile quand vous essayez, parce que vous devez toujours convaincre des financeurs. Mais ils vont vous dire, cette école, c'est rien pour nous, ça ne représente rien, ça nous dit rien. Enfin, il y a 10 000 écoles comme ça. Il y a 10 000 écoles comme ça pour eux. Il y en a une pour nous. C'est ça le problème.
Problème de financement. Alors, oui. On va souffler un peu, Monique.
Je vous en prie.
Vous aimez quel genre de musique?
Ah, moi, j'aime beaucoup la rumba congolaise. Hein. Je suis une grande, grande, grande femme. Passez la chanson Kafoul Mai de Rochero.
De Taboulé.
Oui, dont je parlais en disant que dedans, il y a le nom de Mbeka.
Ah, juste pour ça que vous avez
non,
la chanson.
Non, et à part ça, c'est une chanson que je trouve au niveau de la composition et de la rythmique, une chanson extrêmement forte et extrêmement puissante. Comme vous savez, il y a une tradition dans notre pays où les hommes chantent en prenant la place des femmes. C'est que Rochero savait bien, mais d'autres chanteurs l'ont fait. Mais en tout cas, dans cette chanson, la manière dont Rochero arrive à se mettre dans les sentiments d'une femme qui voit que son mari la néglige, qu'il la traite mal, qu'il peut-être il voit une autre femme, on ne sait pas, qu'elle se demande vraiment, Liba là, c'est trop triste. La douleur qu'on perçoit j'ai dit, cet homme-là, c'était aussi quelqu'un qui avait une part féminine très très forte. C'est pour ça que j'aimerais faire un film sur lui, parce que il a réussi vraiment à être le témoin de la vie des femmes.
Défenseur des femmes.
Défenseur, c'est même pas tellement ça. C'est quand tu sens de l'intérieur une psychologie de femme, c'est que tu as beaucoup de sensibilité, quoi.
Alors, on va demander à Sylvain Matundu de nous balancer la chanson Ekaful Maya de Taboulé pour le plaisir de Monique Mbeka qui est avec nous dans ce studio et pour le plaisir de tous les auditeurs qui nous suivent partout en RDC et même à l'étranger grâce à notre site internet www.radiocapi.net. Thank you.
Oti buana me na kembe kae na komi kosonga mboka pote mo palia nyoko ninga.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Beka Poma est celle que Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui. 20 ans de carrière cinématographique.
Même un peu plus, parce que
plus de 20 ans.
Oui, j'ai commencé mon premier film, c'était en 1991. Nous sommes en 1994. Oui,
plus de 20 ans plus dans 20 ce ans, domaine. Voilà. Et poétesse. Alors, Monique, vous venez régulièrement en RDC. Mm-hmm. Il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui se lancent aussi dans le cinéma. Cinéma congolais, je ne sais pas si on peut comparer le cinéma congolais au cinéma de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a, on peut comparer ces deux cinémas?
Non, bien sûr que non, parce que comme je vous l'ai dit, la question de l'organisation du secteur du cinéma en RDC se pose, parce que bon, évidemment nous avons tous deux noms qui nous reviennent quand on parle de cinéma congolais, c'est La Vie est Belle et puis récemment Viva Riva de Joe Munka, mais sinon... En tant d'années d'existence de ce pays, il y a peu de films qui survivent à tout ça. Donc conclusion, c'est que il y a vraiment un problème pour aider à financer les films. Il y a une organisation qui n'est pas du tout mise en place. La plupart des pays d'Afrique de l'Ouest dont vous parlez, ce sont des pays qui ont une organisation claire autour d'un centre du cinéma national qui va donner des subventions. Ou bien, il y a aussi autour de ça, à côté de ça, des écoles de cinéma qui forment les personnes aussi bien comme réalisateurs et créatifs que comme techniciens. Et ensuite, ces gens peuvent ça. S'appuyer sur l'aide des subventions et en dehors de ça, en plus, il y a la distribution qui est faite pour que les films soient connus dans le pays de telle façon que les gens adhèrent à leur cinéma et soient pressés de voir le film qui va sortir parce que c'est le film de tel avec tel acteur et telle actrice qu'ils vénèrent, tu vois. Mais l'isolement dans lequel nous sommes, nous cinéastes congolais, mais ça fait pitié, c'est vraiment. Et pourtant, au niveau du cinéma africain, nous voyons toujours des films congolais qui prennent le haut du pavé. C'est-à-dire qu'un film congolais qui sort, c'est pas un film ignoré. C'est un film qui généralement est quand même bien remarqué, bien apprécié.
Ouais, c'est comme le cas de La Vie est Belle, hein. Jusqu'à aujourd'hui, oui. C'est un film qui est très apprécié.
Très apprécié. Viva Riva, n'en parlons pas. C'est incroyable. Le film a fait vraiment le tour du monde. Mais Kibushi Njate, qui est aussi congolais, le monsieur, il est un des grand du cinéma, du film d'animation africain. Vous avez Balufu Bakupa Kaninda avec son film Le Damier, qui était même apprécié par Spike Lee en personne. Donc, franchement, on n'est pas ridicule, mais en se battant tout seul, en se battant.
Il n'y a pas cet accompagnement du gouvernement.
Il n'y a pas cet accompagnement. Alors, ça veut dire que les gens s'épuisent vite et ne feront pas la carrière qu'ils mériteraient
et
de faire.
Et ça décourage même les cinéastes.
Oui, ça décourage parce qu'on vieillit à se battre contre vents et marées. Moi, je dis souvent, c'est parce que je suis issue de cette forêt du Mayombe où les arbres résistent aux coups de hache. Parce que entre le décalage qu'il y a entre l'idée qu'on se fait du cinéma où on arrive, on bouge devant une caméra, et puis après, tout de suite, Hollywood vous attend avec le tapis rouge. Les gens, ils rêvent des choses comme ça, alors que la réalité, c'est d'une violence, d'une brutalité, d'une difficulté qui n'est même pas à décrire. Et sincèrement, on parle souvent du cinéma africain comme du cinéma du premier et du deuxième film. Et après ça, la personne fatiguée renonce à ce métier. Donc c'est pour ça que je dis avoir fait 10 films, ce n'est pas pour me vanter.
Vous êtes à féliciter.
Oui, c'est parce que dans ces conditions-là, j'aurais fait 10 films en étant d'Afrique de l'Ouest, en étant du Mali, en étant du Burkina, en étant du Sénégal, ok. D'ailleurs, il y a une femme qui s'appelle Safi Faye, qui est la doyenne du cinéma féminin africain. Elle a certainement fait 10 films, ça c'est clair. Mais bien accompagnée par son pays. Tandis que ce n'est pas le cas pour moi. Parce que quand tu regardes la Belgique, a priori, a une série de cinéastes spécialisés sur le Congo. Les Thierry Michel, mais il y en a d'autres aussi. Gilles Remiche, etc., etc. C'est-à-dire que les films qu'elle voit sur le Congo, elle ne va pas te faire la place parce que normalement, il y a déjà des gens qui s'en occupent. Ouais. Qui finalement, d'ailleurs, ont souvent fait leur carrière là-dessus. Thierry Michel existe grâce à ses films sur le Congo. Donc, quand toi tu arrives quelque part, tu embêtes, tu gênes. Il y a déjà ta place quelque part.
Tu n'as pas de place là-bas.
Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place là-bas et en même temps, c'est le seul endroit où demander de l'argent parce que le cinéma d'Afrique de l'Ouest est financé beaucoup par les Français et quand tu vas essayer d'aller voir les Français, ils vont te dire que bon, allez voir du côté des Belges. Vous voyez un peu la chose. Donc tu es vraiment bloqué entre le marteau et l'enclume, entre les Français qui ne te reconnaissent pas parce que tu ne fait pas partie de leur précaré, entre les Belges qui te disent finalement, bon, ce sont vos histoires à vous, allez vous les faire financer
par votre gouvernement,
et entre le gouvernement qui dit, de toute façon, tu habites en Belgique, débrouille-toi.
C'est ça. Donc vous êtes coincé là, vous êtes obligé de...
On m'explique, mais tu n'as pas le droit de venir chercher des financements ici au Congo. Il y a des jeunes ici qui n'ont pas de moyens. Débrouille-toi là où tu es. Donc vraiment, c'est plus que de la prise de tête. Il y a des jours où tu te dis que tu es complètement folle de continuer à ce métier-là. C'est parce que quelque part, tu n'as ta place nulle part. Et pourtant, tu sais que les films que tu fais, quand ils sortent, vraiment, les gens sont heureux.
Est-ce que Monique Mbeka prépare une relève?
Je fais beaucoup ça. Moi, c'est ma passion, la relève. On m'a invité ici. La première chose que j'ai dit, vous m'organisez un cours de scénario, sinon je ne viens pas. C'est-à-dire que pour moi, il n'est pas question à l'âge que j'ai de ne pas me préoccuper de ceux qui viennent derrière moi, parce que moi, on m'a un peu, si c'était pas Kwame Mabunzinga, on s'est pas trop occupé de moi, mais Kwame m'avait pris sous son aile, m'avait beaucoup encouragé, ne fût-ce qu'encouragement, c'est pas mal, comme c'était le doyen du cinéma congolais, c'était un papa.
Quand vous venez ici, vous donnez des cours de scénario?
Mais je viens de finir mon dernier, je suis arrivée lundi, j'ai montré mon film mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusque hier, j'ai donné des cours à 10 personnes. Ce sont des gens qui sont ravis. Il faut voir comment ils m'ont félicité. Ils m'ont dit, mais on a vraiment appris maintenant à écrire une histoire de film. On avait trop de problèmes.
Mais est-ce qu'il y a un suivi? Vous faites le suivi après?
Mais écoutez, moi, mon problème, c'est que j'ai dit à plusieurs reprises à l'Institut National des Arts qu'il faudrait trouver un moyen que je sois permanente. Et c'est ça un peu le souci, parce que j'ai posé ce problème déjà depuis 2-3 ans. En attendant, je fais ce que je fais. Mais je leur dis bien, je ne peux pas aller tellement loin parce que je ne suis pas dans une structure. Et même les raisons pour lesquelles je viens ici après avoir montré mes films, j'essaie de trouver la possibilité de le faire. À l'Unikin, j'ai eu des discussions à l'INA, je continue à tenter de m'insérer pour que, au lieu de faire 3 jours, 1 semaine à gauche, à droite, même si en faisant entre la coupe et l'élection, j'ai suivi des gens pendant 2 ans. Donc c'était pas un petit truc, cette affaire-là. Mais j'ai trouvé le financement à moi tout seul. J'ai trouvé le financement tout seul en même temps que je faisais la formation. Vous imaginez un peu le boulot. J'ai dit, c'est impossible que je continue à travailler comme ça, c'est trop épuisant. Donc l'intérêt serait ça, ce serait d'être inséré dans un cadre structuré, existant, tel qu'une école d'art, tel qu'une école de communication, tel qu'une université.
Alors un mot à tous ces jeunes Congolais qui veulent se lancer dans les cinémas. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Monique Mbeka?
Je leur dirais vraiment comme tout premier message, n'attrapez pas la grosse tête. Parce que vous faites un film, comme j'ai dit, premier film, deuxième film, éventuellement troisième film, l'épuisement va vous guetter. Donc il ne faut pas être content tout de suite. Il faut plutôt vraiment réfléchir à comment essayer d'avoir une longévité dans ce métier. Parce que bon, c'est vraiment, il y a un fantasme autour du métier qui fait que tout le monde est tout de suite très content, très très fier d'avoir fait un film. Mais vraiment, le travail, d'ailleurs moi, vous voyez, j'ai recommencé à aller à l'école, j'avais 47 ans, c'était il y a 5 ans pour avoir mon master de scénario, et maintenant j'enseigne le scénario. J'aurais pu dire, ah mais j'ai fait déjà 9 documentaires, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à l'école? Non, j'ai été, parce qu'on ne peut pas, en plus les techniques évoluent tout le temps, les caméras évoluent tout le temps, les séries télévisées qu'on avait à l'époque ne sont plus les mêmes qu'aujourd'hui, qui n'ont rien à voir. Donc si tu ne suis pas le train, on te tue abandonné au bord du chemin. Donc, au lieu de passer ton temps à trouver que tu es grand cinéaste, vraiment, travaille, étudie, et réfléchis aussi, surtout, à la manière dont, économiquement, continuer à subsister.
Merci, Monique Mbeka. C'était un plaisir de vous recevoir dans Grand Témoin. Merci à Sylvain Matundu, qui était à la mise en onde de micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.